Et oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les voix de l'écho du mercredi 10 juin 2026. Aujourd'hui, on va parler de musique, mais pas uniquement de musique justement, on va parler de création, d'audace, de lieux partagés, de rencontres artistiques et d'une envie très forte, faire émerger une nouvelle dynamique musicale à Angers. Parce qu'avant qu'une chanson existe, avant qu'un titre soit publié, avant qu'un artiste monte sur scène, il y a souvent une idée fragile, une mélodie, une voix, une intention. Et pour m'accompagner dans l'émission du jour, nous avons notre thérapeute spirituelle, Anne Texereau. Bonjour Anne, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'unique trait du pinceau, de calligraphie.
Ah, intéressant. On retrouve votre chronique d'ici 10 minutes à peu près. Également en studio avec nous, notre communicant assertif, Alexis Desjeux. Bonjour Alexis, de quoi allez-vous nous parler ?
Bonjour, on va voir pourquoi diable emprunter le chemin de l'assertivité dans un monde qui est tellement apaisé.
Et ouais, on retrouve votre chronique en deuxième partie d'émission. Et je reçois aujourd'hui donc les créateurs d'un lieu pensé pour enregistrer, composer, mixer, masteriser, mais aussi accompagner les artistes dans leur développement, leur choix, leur identité et parfois même leur premier pas vers la scène. Aujourd'hui, nous allons parler de leur parcours, de leur rencontre, de la naissance de ce studio, de la scène musicale angevine, mais aussi de ce que signifie entreprendre quand on travaille dans la musique et la création. Chers auditeurs et auditrices, ouvrez grand vos oreilles et entrez dans le monde enchanteur de la musique.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Bonjour et bienvenue donc Julien Malray et Aymeric Poupard dans le studio de Radio G.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et vous êtes dans un studio et vous rentrez dans un autre studio. En fait, c'est votre quotidien.
Exactement.
Alors, on va commencer par quelque chose d'assez simple. J'aimerais d'abord savoir comment vous êtes rentrés dans la musique, tous les deux.
Je vais commencer.
Donc, Aymeric.
J'ai commencé le plus jeune, on va dire. Moi, j'ai commencé à 7 ans. Je sais pas pourquoi, mais j'ai dit à mes parents, j'ai envie de faire de la guitare.
Ok.
Et ils m'ont inscrit à des cours. Donc, merci à eux. Et donc, j'ai commencé la guitare à 7 ans. Un peu plus tard, je me suis dit, je vais faire du piano. Et après, j'ai rencontré d'autres musiciens, j'ai fait un peu de batterie, tout ça. Donc, ça me suit depuis 7 ans, cette histoire.
Ok. Julien ?
Et moi, c'est aussi grâce à mes parents. Je pense que les premiers souvenirs, c'est le spectacle des Enfoirés tous les ans.
Ok.
qui m'a fait découvrir pas mal de chansons françaises, notamment. Et après, j'ai fait de la batterie à l'âge de 9-10 ans, je ne sais plus exactement, pendant 9 ans.
Ok. Ouais, 9 ans directement. Faut bien penser à parler proche du micro également. Donc vous faites combien d'instruments tous les deux à peu près ?
Alors pour ma part, moi c'est vraiment principalement la guitare. Après je bricole un petit peu piano, batterie et j'essaye un petit peu d'autres instruments parce que j'adore ça. J'adore beaucoup jouer de la musique sur plein d'instruments, ouais. Mais ça reste principalement la guitare.
Ok. Et Julien ?
Moi du coup j'ai juste quelques bases de guitare et piano en autodidacte, mais pas plus.
Ok, bah c'est déjà pas mal. Hein
oui, oui.
Il y en a qui ne jouent même pas d'un seul instrument. Donc, Alexis lève le bras, par exemple. Après, on a tous un très bel instrument, c'est notre voix. Donc, c'est déjà notre premier instrument. Qu'est-ce qu'il y a eu à quel moment précis vous vous êtes dit « je veux que ma passion de la musique soit mon métier »
C'est très dur à dire. C'est très très dur à dire, je pense que ça se fait assez progressivement. Mais il y a quand même une petite fracture de mon côté. Ça a été durant le Covid.
Ouais.
Où moi, j'arrivais à la fin d'un master et j'avais du mal à trouver du travail. Donc, pendant ce temps, je faisais de la musique. Mmh. Et ça a commencé à marcher un petit peu. Donc, je me suis dit, allez, on tente, on essaye.
C'était un master en lien avec la musique ou pas du tout?
Pas du tout. Pas du tout. Je voulais faire, je voulais être agriculteur quand j'étais plus petit. D'accord. Reprendre l'exploitation de mon père.
Ouais. Ok. Et Julien?
Moi, j'ai pas non plus fait d'études en rapport avec la musique. C'est venu à moi, on va dire, dans le sens où, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai commencé à créer des instrumentales que je postais sur Internet. Et j'étais prof des écoles pendant 4 ans, entre 2018 et 2022 à peu près. Et pendant ces années-là, en fait, la musique que je postais sur Internet a commencé à se vendre, en fait, à être demandée par des jeunes artistes. Et donc, c'est venu à moi dans ce sens-là, puisque je me suis dit qu'en faisant plus de musique, je vendrais plus de musique. Et donc, comme le métier de prof que j'avais imaginé parfait ne l'était pas pour moi, la transition s'est faite comme ça.
Ok. Et alors, comment vous définiriez tous les deux votre univers musical? Grande question. Ouais,
c'est la grande question.
Qui veut commencer, Julien?
Écoute, Julien, j'enchaîne. Moi, c'est un mélange de toutes les références. Donc, il y a des références de variété française, il y a des références d'électro, il y a des références de rap. Je dirais que c'est un mélange de tout ça. Moi, j'aime bien la musique qui est très mélodieuse et qui va droit au but, on va dire.
Ouais, de ce que j'ai lu, en tout cas, vous êtes un peu au beat making, c'est ça aussi un petit peu.
Moi totalement beat making en fait, hein, donc création de musique sur ordinateur.
Ouais. Ok.
Plus que par instrument organique, on va dire.
D'accord. Et donc du coup, ouais, Aymeric, l'univers musical.
Univers musical, moi je dirais que j'ai eu le rock principalement qui arrivait, le blues, le rock par mon père, qui en écoutait beaucoup, qui m'a fait découvrir beaucoup de CD. Les Guns notamment, tout ça. Et en fait, aujourd'hui, quand je rencontre des musiciens, c'est principalement le blues, le rock qui vient assez vite. Mmh. Mais du côté avec ma mère, il y avait toujours la télé allumée sur les chaînes de musique un peu actuelles, un peu hip-hop. Et j'ai une grosse culture hip-hop. J'ai fait du breakdance pas mal de temps aussi. Donc, j'ai un peu ces deux cultures-là. Et j'ai commencé un peu la musique par ordinateur avec un ami à moi à l'internat qui était DJ.
D'accord.
Donc, j'ai un peu ces trois inspirations.
Ouais, vous êtes multi-instrumentiste, hein, on l'a compris également. C'est quoi l'instrument, du coup, pour Aymeric, par exemple, le meilleur pour composer, entre les guitares, un peu le piano, un peu tout ça, enfin.
Alors, quand je sais exactement quoi faire, c'est la guitare. Quand on me demande une émotion, quand on me demande, je sais pas trop quoi. Quand je dois réfléchir à une progression d'accord, je sais où je vais, je prends ma guitare et je sais exactement, je me repère super bien sur mon manche. Par contre, le fait de connaître super bien la théorie musicale fait que parfois je me perds un petit peu et j'ai l'impression de faire un peu tout le temps la même chose. Ah, donc à ce moment-là, je pose mes doigts sur un piano et il y a des superbes idées qui en sortent. Et du coup, je traduis ça derrière et j'utilise ma guitare après pour développer toute cette musique.
Ok, et au niveau du beatmaking, Julien, comment ça se passe la partie création en fait?
En fait, sur le logiciel, il y a plusieurs écrans différents, et notamment un qui s'appelle le piano roll. Et donc, comme son nom l'indique, en fait, on a sur la gauche de la fenêtre un piano entier avec toutes les touches. Et donc, suivant l'instrument qu'on affecte, ça peut être des synthés ou peu importe, en fait, on va reproduire les notes et les placer comme on veut sur cet écran.
D'accord. Ok, ouais, trop bien. Alors vous êtes aussi donc artistes tous les deux, donc vous avez des pseudos dont June et Paray,
ouais.
Si je ne suis pas trompé. Qu'est-ce que ces identités artistiques en fait racontent un peu de vous?
Très intéressant. Moi, il y avait une notion du paraître qui était hyper important. Comme j'avais un peu trois inspirations différentes, comme je venais un peu du milieu agricole, que j'évoluais dans la ville, un peu côté banlieue au début, j'avais un peu ces trois casquettes, ces trois facettes, et c'était dur d'évoluer de l'un à l'autre. Et donc je cherchais quelque chose avec le paraître. En fait, Paray, c'est vraiment mon nom de famille, mon prénom. Quand ça suit, ça fait Paray. Donc, okay. Poupard Aymeric, c'est compris dedans. Je me suis dit, allez, je teste ça. Et voilà, j'ai gardé.
Ok, super.
Moi, perso, il n'y a pas autant de signification. Comme je disais, j'ai commencé à poster mes musiques sur Internet et donc j'ai dû créer une chaîne YouTube. Et on va dire que les gens qui faisaient comme moi avaient tous un nom d'artiste. Donc j'ai créé mon propre nom d'artiste en prenant quelques lettres de mon prénom à l'ouverture de cette chaîne YouTube, c'est tout. Et c'est resté en fait Donc voilà, moi j'ai
tout simplement.
Je demande pas à ce qu'on m'appelle June forcément, mais les gens m'appellent comme ça, donc moi ça me dérange pas, c'est moi qui l'ai choisi.
Carrément. Avant qu'on parle de The Main Studio, justement, à quel moment vos chemins se sont croisés pour vous dire bah tiens, peut-être qu'on peut monter quelque chose ensemble.
C'était en 2022, ouais. Bah vas-y, peut-être explique de ton côté.
Ouais. Ouais, je commence. En fait, j'ai eu toute une période de la période où j'étais enseignant. J'ai voulu faire évoluer ma carrière dans la musique et donc pour ça, je suis allé beaucoup à Paris et à d'autres endroits. Et en fait, à tous les endroits que m'a amené ma chaîne YouTube, dans le sens où les gens qui me contactaient venaient de un peu toute la France. Et j'ai commencé à me faire un petit réseau comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit que c'était très dommage quand même de pas travailler autant avec des gens de chez moi. Et je connaissais personne à Angers dans la musique. Et en même temps, j'avais pas vraiment cherché. Mais donc, je me suis posé cette question de comment trouver des artistes avec qui travailler à Angers. Et ce qui m'est venu très vite, en fait, c'est d'aller voir en fait les studios de musique, parce que je me suis dit, les studios de musique, ils connaissent plein d'artistes et ils vont pouvoir me guider, me renseigner. Et donc je suis allé voir quelques studios à Angers et il se trouve que je suis tombé sur un studio qui s'appelait Studio Pas Records. Donc comme son nom l'indique, c'était le studio de Paris. Et c'est le seul avec qui ça a vraiment matché en fait musicalement, au niveau de l'énergie aussi, de la dynamique qu'on voulait apporter. Et donc en fait on a commencé à se voir, à organiser des événements aussi au Shabada qui rassemblait d'autres compositeurs comme nous. Et puis on s'est rapprochés, donc on est devenus amis au fur et à mesure, quoi.
Ok.
Et donc je te laisse continuer.
Ben moi c'est l'autre côté du coup. Voilà, j'avais mon studio depuis le studio Par Records depuis peut-être 2 ans déjà maintenant. Et voilà, un jour un message de ce fameux Julien Malaret. Et voilà, on s'est rencontrés, il est venu au studio et ça a super bien matché. Ça a très très bien matché. Et moi ça faisait longtemps que je voulais rassembler les artistes parce que comme je me suis lancé au moment du Covid, c'était dur. Chacun était chez soi et parfois je me baladais dans la rue et je voyais des gens à la fenêtre qui faisaient de la musique. Je me suis dit mince, on est à côté, on se connaît même pas. Donc de là, voilà, je voulais rassembler les gens. Je savais pas comment faire. J'en parlais à quelques personnes, mais on me disait que j'étais un peu trop naïf parfois.
Ouais.
Et quand j'ai rencontré Julien qui avait un peu cette démarche-là, je me suis dit super, il y a quelque chose à faire avec ce gars-là.
Exactement. On va reparler plus en détail de The Main Studio, mais avant, je vous propose un petit jeu. C'est parti. Alors, pour ce premier jeu, nous allons faire ce qu'on appelle la boussole métier. Comme dirait un peu notre amie Anne, c'est des questions un peu coach que je pose. Mais justement, je vous propose de pas partir d'un métier unique, parce que vous faites quand même pas mal de choses, mais plutôt de la posture, celle du compositeur, du musicien, de l'ingé son, etc., etc. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Allez, c'est parti.
Alors, quand vous accompagnez un artiste au studio, quel est le cap que vous essayez de lui faire garder? C'est la qualité sonore, l'identité artistique, la sincérité, un peu tout ça.
Waouh, c'est très dur. Je m'attendais à un jeu plus facile.
Ça dépend des artistes, honnêtement. Dépend des artistes, de leur univers, de leur niveau aussi. Parce qu'on a des artistes qui sont tout débutants et d'autres qui ont déjà un peu d'expérience, donc c'est pas la même chose. Donc disons que peut-être sur les débutants, ça va être de donner le, on va dire, de garder la motivation, parce que c'est long, c'est dur et c'est de l'investissement. Et pour des artistes un peu plus confirmés, ça va être de maintenir la qualité, de continuer à être perfectionniste aussi, même si des fois on se lasse de travailler sur un seul morceau par exemple. Moi je dirais ça.
Ouais, je te rejoins totalement. Ouais.
Ok. Qu'est-ce qui, dans votre parcours personnel de musicien ou de compositeur, vous aide le plus aujourd'hui pour comprendre les artistes qui viennent travailler avec vous?
L'instinct, je dirais.
Ok. L'instinct, ouais, c'est intéressant, carrément. Quand un jeune artiste pousse la porte de The Main Studio pour la première fois, quelle est la première chose que vous allez chercher à créer avec cette personne?
Un lien humain. On propose toujours, quoi qu'il arrive, de se rencontrer au studio. On paye le café, on discute, on demande aux gens qui le peuvent ou qui le veulent de nous faire écouter des maquettes, des débuts de son ou des anciens morceaux, par exemple. Mais c'est vraiment créer ça, en fait, se rencontrer, ça vient avec tout ce qu'on a dit juste avant, hein, de la dynamique, de rencontrer les gens, etc. Et donc ouais, je pense que c'est ça premièrement qu'on fait.
Okay. Exactement.
Et alors, dans un projet musical, qu'est-ce qui bloque le plus souvent?
Ça dépend.
Ouais, ça dépend. Beaucoup de fausses pensées, je dirais. Beaucoup de doutes. Ça, c'est le doute. C'est bon. Tout artiste connaît ça. Et je pense que beaucoup sont prêts à changer des choses à la dernière minute. Beaucoup sont très perfectionnistes et beaucoup doutent tout le temps, en fait. Ça bloque très très souvent.
Ouais, la confiance en soi peut-être finalement.
Ouais, c'est peut-être un peu ça aussi. Ouais.
Un peu ça, ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup, Aymeric et Julien, pour vos réponses.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors les mains du pianiste sont à la mélodie, ce que le pinceau est à la calligraphie, en tout cas c'est ce que je pense. C'est le moment d'écouter la chronique d'Anne Texerov.
Je sème donc je suis, une chronique de la coach Anne Texerov.
Samedi dernier, j'ai participé à un colloque sur le thème « L'unique trait du pinceau ». Pour illustrer ce thème, lors de cette rencontre, il a été question de la vie de Fabienne Verdier, qui, âgée d'une vingtaine d'années, est partie en Chine se former à la calligraphie chinoise. Elle y restera 10 ans. Au début de son apprentissage, son maître exige d'elle qu'elle exécute le tracé suivant, un trait unique du pinceau. Elle s'y applique un peu plus chaque jour et son maître la renvoie systématiquement, car son trait n'est pas parfait. Au bout de 3 ans, elle craque. Et là, son maître lui dit « Maintenant, on peut commencer le travail. » Depuis, Fabienne Verdier arpente le monde pour dresser une cartographie des forces visibles et invisibles qui traversent l'univers et façonnent les paysages. La peinture devient un champ d'expérimentation. Gravité, flux, vibrations, ondes telluriques, lumineuses et sonores. Elle invente un langage pictural inédit, riche de savoir et d'inventions techniques singulières. Pinceaux pendules, outils gravitationnels, alliages de glacis, esquisses filmiques. Ses recherches ouvrent un territoire neuf, sensible et visionnaire de l'énergie terrestre et de l'imaginaire dans l'art contemporain. Lors de ce colloque, le témoignage du parcours et de l'art de Fabienne Verdier m'ont parlé. Par son œuvre, cet artiste nous montre comment être dans un abandon et une foi totale pour créer. L'unique trait du calligraphe nous enseigne sûrement des clés pour mener et expérimenter notre vie dans la manière de façonner la création. Et cela est possible dans chaque acte qui rythme notre quotidien. Par exemple en cuisinant, en jardinant, en dessinant, en bricolant, ou encore en réalisant une tâche au travail ou en échangeant avec une personne. Ce trait unique du pinceau parle de la présence, d'être dans l'ici et le maintenant, et de savoir capter l'éternel présent. Je peux par exemple illustrer par la pratique du surf en mer, où le surfeur sait prendre la bonne vague au bon moment. D'ailleurs, je vous conseille de lire le livre de Joël de René qui s'intitule « Surfer la vie ». Ce trait unique parle aussi d'équilibre et de justesse dans l'acte posé qui tend vers une forme de perfection. Cela me fait penser au joueur de jazz qui, par son instrument, sort un son unique, juste, parfait. Ce trait ou cette patte nécessite également un centrage en soi pour être à la fois agi et agissant. Car ce trait ou cet acte est en vérité inspiré par le souffle. Je pense à l'archer qui vient bander son arc pour toucher sa cible. Tout dernièrement, j'ai écouté une interview de la comédienne Juliette Binoche qui vient de sortir un documentaire qui s'intitule « En nous ». Dans ce film, l'actrice échange son rôle avec un danseur. Elle devient danseuse et lui acteur. Pour arriver à cette prouesse, il lui a fallu d'abord descendre en elle pour s'abandonner totalement. Et cela avec une grande confiance et beaucoup de courage. D'ailleurs, l'artiste, l'artisan, par son art, son attention, peut vivre une forme de transe légère ou un état de conscience modifié au cœur de son acte créatif, là où le temps se suspend. Il perce et touche alors le mystère de la création. Capter ce souffle ne vient pas du mental, non, mais d'une part plus grande que soi. L'art, la création en général, ouvre une porte entre l'esprit et la matière, entre le divin et l'humain. Cette percée est cette capacité à nous laisser inspirer et pénétrer par la vie. Vie, V-I-E, V pour vibration, I pour information et E pour énergie. En anglais, on parle de flow, c'est-à-dire littéralement le courant, courant de vie. J'ai une question pour vous, chers invités, Julien et Aymeric. J'imagine que vous avez déjà vécu cet état de flow, et si oui, à quel moment, dans quelles circonstances?
Ouais, tout à fait. L'état de flow, moi je m'en suis rendu compte beaucoup en jouant avec d'autres musiciens. Quand on improvise, quand on se laisse aller, pas tellement sur scène, mais plutôt dans les salles de répète plutôt, ou chez les uns, chez les autres. Ouais, l'état de flow arrive souvent, on le remarque et c'est trop bien.
Ça me parle, merci. Et Julien?
Ouais, moi c'est pas cet exemple-là de scène, c'est plus au studio. Je travaille beaucoup avec un artiste qui s'appelle Nelly Netti et qui est donc auteur et chanteur. Et on est comme un binôme en fait. Vraiment, je fais la musique, lui il fait les textes et en fait il m'aide parfois sur la musique, je l'aide parfois sur les textes et sur la mélodie des paroles, etc. Et donc en fait, ça nous arrive assez régulièrement de se mettre sur une création. Et en fait, d'arriver à cet état-là et en fait de ne plus savoir quelle heure il est, de travailler toute la nuit, etc. Et c'est hyper agréable en fait, comme moment, il n'y a plus rien qui existe autour. Et là, faut bien penser à se mettre en ne pas déranger, fermer les portes, etc. pour le garder le plus longtemps possible.
Merci.
Merci beaucoup, Anne, pour votre chronique.
Les Voix de l'Écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors pour cette deuxième partie, je voudrais qu'on parle plus de justement The Main Studio, sa naissance. Donc le samedi 12 octobre 2024, vous ouvrez The Main Studio à Angers. Qu'est-ce que vous aviez en tête ce jour-là?
Wow.
Faut peut-être remonter un petit peu le temps pour savoir.
Allez, rembobinage.
On rembobine de pas si longtemps que ça avant, hein, quelques mois. Au mois de mai 2024, on se retrouve chez Aymeric pour 3 jours de séminaire. Donc, ce qu'on appelle séminaire, c'est de passer 3 jours ensemble avec des artistes et faire de la musique ensemble. Donc, on va chez toi, Aymeric. Et finalement, le premier jour, il m'a parlé de ce projet d'agrandir son studio qu'il avait déjà, donc de choisir un autre endroit, etc. Et en fait, on n'a pas fait de musique pendant 3 jours. On a parlé que de ça. Et moi, j'étais ok. En fait, j'étais chaud. Je pense que dans le projet, moi, que j'avais musicalement, etc., c'était le bon moment pour passer cette étape-là. Donc, le fait que je sois ok, ça a débloqué aussi, bah, du coup, financièrement, les moyens de pouvoir trouver un local assez grand pour nous deux. Et on a trouvé très très rapidement.
Ouais. Entre cette discussion et le moment où on a les clés, il se passe 4 mois.
Ah oui, c'est rapide.
C'est hyper rapide. C'est vraiment très rapide.
C'était naturel en fait. C'était naturel. Ouais. On s'est dit ça. Ok, c'est bon, on le fait. Bon, bah on fait comment? On passe par une agence. Ok. On a visité 3 locaux et on a choisi le deuxième qu'on a visité. Et en fait, voilà, en septembre on a signé. Et on a fait des travaux dedans et on a ouvert en octobre. Donc ce qu'on avait en tête ce jour-là du 12 octobre, c'était de la fierté je pense, et puis de la hâte de pouvoir commencer le travail.
Et puis vraiment quelque chose de très très nouveau, enfin on s'en rendait pas compte. Ouais. On a un local de 80 mètres carrés en plein centre-ville. Tous les matins on arrivait, on se disait mais c'est vrai? C'est vrai ou pas? Ouais. Et donc il se passe plein de choses dans notre tête, hein. Ce jour-là c'est quand même assez fou. Ouais.
Ouais, donc vous êtes 28 rue Baudrière à Angers, donc ouais. Entre les Halles et la cathédrale, on peut dire.
Exactement.
Avant, c'était un salon de tatouage, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez eu à faire beaucoup de travaux à l'intérieur?
Ouais, pas mal. Ouais. Le salon de tatouage avait peint tous les murs en noir, les plafonds en noir, et avait laissé pas mal de choses à l'intérieur. Donc, on a dû un peu tout virer, tout nettoyer, et retaper un petit peu les murs, mettre beaucoup, beaucoup de peinture. Voilà. Sacré budget peinture, ouais.
Ouais, c'est vrai. Et on a aussi, du coup, installé des portes, parce que bon, la particularité, c'est qu'il n'y avait pas de portes. On a installé des portes, et puis on a fait tout un travail sur l'acoustique aussi. Du coup, on a créé nos propres panneaux acoustiques, parce que voilà, on a besoin de conditions quand même assez travaillées pour justement travailler correctement, nous.
Et vos voisins, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que vous êtes quand même pas loin d'habitation.
Ouais, tout à fait. On a même des duplex au-dessus de nous. Mais tout le monde s'inquiétait un petit peu au début. Mais en fait, on leur a dit, on n'est pas une salle de concert, on est un studio d'enregistrement. Donc, on s'inquiète pas du bruit qu'on va faire, on s'inquiète du bruit que vous allez faire. Mmh. Et comme on est en pleine ville, bah, on avait peur, tout simplement. On a regardé vraiment le PLU aussi pour pas qu'on s'attrape des travaux juste en face, au bout de 2 mois, par exemple.
Bah oui.
Donc, non, nous, on enregistre beaucoup.
Oui, et puis c'est en journée, en plus, peut-être.
Ouais. Exactement, on travaille la journée. Puis de plus, on revient aussi sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais on est humain aussi avec les gens, on est allé les voir et puis et on leur a proposé de visiter. Il y en a certains qui sont venus, donc en fait ça démystifie aussi ce truc là de est-ce qu'ils vont foutre le bordel toute la nuit.
Ouais.
Non.
C'est clair. Quand vous dites créer une dynamique autour de la musique sur Angers, concrètement, ça veut dire quoi pour vous?
Ça veut dire qu'il y a du monde partout. Il y a des gens qui ont des envies. Il y a plein d'artistes dans plein de domaines différents. Et on est une ville assez grande, assez petite encore, à taille humaine, comme on dit. Mais il y a quelques projets qui se font. Mais voilà, il y a beaucoup de gens encore qui partent sur Paris, malheureusement. On rencontre de super artistes avec le studio. Mais voilà, beaucoup de gens nous disent « Allez, je pars sur Paris, je tente l'aventure. » Et nous, on aimerait vraiment créer une dynamique assez forte pour faire rester les gens sur Angers. Parce que nous, c'est notre ville, on habite là, on adore cette ville. Et voilà, on aimerait pouvoir y travailler toute notre vie aussi.
Ah bah complètement. C'est vrai que... en même temps, j'allais dire, pour plein de métiers, au final, artistiques, on part souvent à la capitale. Oui, Alexis, vous avez une question?
Oui, j'ai une question très, très terre à terre. Ça me coûte combien, si je suis artiste, de bosser avec vous? Et vous gagnez combien?
ça dépend vraiment de ton projet. Donc, en général, on va inviter l'artiste à venir, justement, pour qu'il nous explique son projet. Parce qu'on fait beaucoup de choses. On fait de l'enregistrement, on fait de la composition, on fait de l'arrangement, on fait de l'accompagnement. On fait de la formation depuis peu aussi. Donc chaque projet est très très différent. C'est pour ça qu'on invite des artistes. C'est que tous les projets, tous les humains sont différents. On a besoin de comprendre au mieux. Donc on passe en général au moins une heure à discuter du projet pour être sûr de savoir quoi faire avec toi.
Est-ce que vous avez quand même quelques chiffres à donner?
Oui, on peut donner les chiffres de base. Hein. Donc pour avoir une idée de la suite, en fait, on fait l'heure d'enregistrement à 35€ et l'heure de composition ou arrangement à 30€. Voilà. Et pour le reste, c'est sur devis, sachant que on a aussi une offre qu'on a mis en place depuis 2026, qui est une journée totale d'accompagnement. Donc là, on va pouvoir faire de la composition, aider à l'écriture. Si on a le temps, on peut faire de l'enregistrement. Et cette journée-là, elle est à 300€, sachant que du coup, on travaille tous les deux avec l'artiste et on a du coup l'intégralité du studio sans rendez-vous, etc., sans pour se mettre dans cet état de flow dont on parlait.
Voilà. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une belle musique à la fin de la journée, quoi.
Ouais. Et alors, ça veut dire que, en fonction du projet artistique, l'artiste va travailler soit avec l'un, soit avec l'autre, pas forcément avec les deux.
Soit avec les deux, ça dépend.
D'accord.
La journée d'accompagnement, c'est vraiment nous deux. L'enregistrement, c'est plutôt moi. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais moi, j'ai la casquette compositeur ainsi qu'ingé son.
Okay.
Là où je viens, est 100% compositeur, donc tout ce qui est après la composition, c'est avec moi.
Ouais. D'accord. Ok. Et alors, The Main Studio est à la fois donc un lieu de travail, un lieu de création. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait pas mal de travaux. Est-ce que quand vous avez fait des travaux, vous avez pensé un peu à l'ambiance globale du lieu, c'est-à-dire que quand on arrive, on doit ressentir une certaine émotion particulière?
Ouais, totalement. Totalement, et puis ça se confirme avec les gens qui sont venus entre-temps. La plupart ont la même réflexion, on va dire. C'est lumineux, c'est chaleureux, c'est accueillant et c'est grand. Donc c'est tout ce qu'on voulait. On travaille la journée, on veut pas travailler la nuit non plus, parce qu'il y a pas mal de studios qui sont ouverts la nuit, ambiance mur foncé, néon, et c'est pas forcément ce qu'on voulait. Nous, on voulait quelque chose, voilà, de très lumineux. C'est bien, on a la lumière qui rentre dans le studio, on n'est pas dans la cave, et il y a quelques plantes aussi. Enfin, c'est accueillant. Les gens le confirment.
Trop bien. Alors, comme on parle de musique, hein, et puis comme à chaque émission, je vous propose de faire une petite pause musicale dans l'émission. Nous allons écouter Éphémère de Bécard. On reparle de ce choix musical avec vous juste après. Donc Julien Malray et Aymeric Poupard juste après. Bonne écoute sur Radio G.
Est-ce qu'on peut revenir en arrière? J'ai loupé trop d'épisodes.
Est-ce qu'on peut revenir en arrière? J'ai loupé trop d'épisodes. On est jeunes, on se met des barrières. Moi j'en connais qui stagne. Mélancolie qui s'installe. En regardant par la fenêtre du salon, je repère les étoiles qui brillent le plus. Elles scintillent, on dirait presque des avions. Laisse une trace. Éphémère.
bien commettre le pire par peur de finir pauvre. Le crime ça fait nourrir des mifs, ça en fait souffrir d'autres. Jeunesse décidée à fracturer chaque porte. On écoute plus les histoires qu'on nous radote. On transmet plus les conseils qu'on nous rapporte. Pour qu'on s'entende, faudra qu'il y ait des désaccords. Entre nous, c'est limite mort. Deux, trois sentiments que j'interdis d'éclore. Avant de partir à tout jamais, j'aurais peut-être dû lui sortir un truc du genre. Viens, on oublie, viens, on s'aime. Viens, on oublie, viens, on s'aime. Y'a que la haine qu'on a mis en scène. On n'a jamais su mis en scène. J'ai quelques regrets, c'est un fait. J'ai quelques regrets, c'est un fait. J'ai pas suivi ce que lunatique disait au petit que j'étais avant. Est-ce que ça fait de moi un faible? Je pense pas. Est-ce qu'on peut fuir comme dans mes rêves? Est-ce qu'on peut fuir comme dans les tiens? Qu'est-ce qu'on peut faire quand le temps défile? Est-ce qu'on peut faire comme dans les films? Je pense pas. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? J'ai loupé trop d'épisodes. On est jeune, on se met des barrières. Moi j'en connais qui se taille. Un colis qui s'installe. En regardant par la fenêtre du salon. Je veux perdre les étoiles qui brillent le plus. Elles scintillent, on dirait presque des avions. Laisse une trace. Éphémère.
J'ai laissé une trace dans mon passage. Une étoile de plus dans le ciel. Le temps qui défile fait des siennes. L'amour c'était beau avant qu'on s'attache. Il veut que je joue à les cow-boys, c'est nous les sous, c'est nous les apaches. J'ai rangé les soucis dans le sac à dos, j'ai caché les bobos dans le pactage. Ah, ah. Tous les miens essaient d'être entiers. Du coup, nos relations sont de vrais chantiers. Ah, ah. C'est impossible de refaire l'histoire. Je viens de commencer le tableau, je monte juste avant que vous descendiez. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? J'ai loupé trop d'épisodes. On est jeunes, on se met des barrières. Moi j'en connais qui stagne.
Mélancolie qui s'installe. En regardant par la fenêtre du salon. Je repère les étoiles qui brillent le plus. Elles scintillent, on dirait presque des avions. Laisse une trace.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Vous êtes toujours en direct sur Radio G à l'écoute de l'émission Les voix de l'écho et je suis toujours en compagnie donc de Julien Malray et Aymeric Poupard de The Main Studio à Angers. Nous venons d'écouter Éphémère de Bécart. Alors, je vous avoue, c'est pas du tout ma came moi perso d'un point de vue musical, mais merci beaucoup pour cette découverte néanmoins parce que j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Pourquoi avoir choisi ce titre musical, Aymeric et Julien?
Bah écoute, tu nous as demandé de te donner un titre pour cette émission et en fait je suis allé voir Aymeric et je lui ai dit on prend un titre de l'album de Bécart de 2023 parce que
c'était une évidence, cet album de Bécart c'est une évidence pour nous deux. Ouais.
C'est ça, en fait cet album c'est notre peut-être plus gros point commun, en tout cas on est 100% d'accord sur ce qu'on pense de cet album, de sa qualité et de ce qui nous fait à nous en tant qu'artistes et en tant qu'auditeurs. Et donc, on a choisi ce titre-là parce qu'on l'adore tous les deux, mais ça aurait pu être un autre titre de cet album. Mais voilà, il y a le vinyle qui trône au studio, qu'on voit tous les jours, et puis voilà, ça nous plaît.
C'est pas l'artiste ou notre musique préférée non plus. On a aussi d'autres artistes qu'on préfère, d'autres musiques qu'on préfère. Mais voilà, cet album, cet artiste, c'est celui qui nous rassemble aussi. On a pris quelque chose qui nous rassemblait tous les deux, qui nous parlait tous les deux. Et puis ce morceau-là, pourquoi? Parce que là, on a écouté qu'une seule partie du morceau.
Oui, c'est vrai.
Mais il est en deux parties, il dure un peu plus de 6 minutes le morceau. Et je sais que de mon côté, moi, j'aime beaucoup. En fait, c'est quand même un artiste très actuel, mais qui a des prises de risque parfois un petit peu. Et moi, je félicite ça. Pardon. 6 minutes pour un morceau en deux parties, c'est très fort. C'est pas tous les jours.
C'est sûr. C'est plus trop dans l'air du temps, on va dire, de faire ce type de choses. Qu'est-ce que ça change pour vous au studio par rapport, enfin, comment dire? Je recommence. Vous accompagnez des artistes? Vous dites à un moment donné sur votre site web de la première idée jusqu'à la prestation scénique. Qu'est-ce que ça change justement pour l'artiste de venir au studio et de refaire ce que vous avez fait au studio avec les arrangements et tout ça sur une scène? en fait? C'est quoi un peu la différence entre les deux? Parce que le live est quand même souvent différent de ce qu'on fait au studio.
Ouais, tout à fait. C'est deux métiers différents. Le studio et la scène, c'est quand même deux métiers très, très différents. On a une expérience tous les deux dedans. On encourage les artistes à aller sur scène. Beaucoup ne le font pas trop. Et on n'a pas envie, justement, que ça reste un peu des artistes d'Instagram, comme on entend dire souvent. Et beaucoup aussi réfléchissent à se rémunérer. En fait, la scène, bah, c'est la première chose à faire, quoi. Oui. Donc, en fait, on encourage à le faire. On n'est pas, comment dire, les plus expérimentés. Il y a des coachs scéniques qui font ce travail super bien. Mais nous, en fait, on propose pas ça à tout le monde, mais c'est vraiment avec des artistes de confiance, on va dire, avec lesquels on travaille sur le long terme. Au bout d'un moment, on est capable de les accompagner sur scène et de jouer avec eux.
Oui, parce que il faut le repréciser, hein, les artistes gagnent surtout leur vie en faisant de la scène plutôt que aux plateformes d'écoute,
ouais, tout à fait, ouais.
Qu'on a ou YouTube ou autre.
Surtout au début,
ouais. oui, en plus, exactement. Je vous propose de faire maintenant un deuxième jeu dans l'émission. C'est parti. Alors vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que la première. Là, cette fois-ci, c'est un vrai faux express. Je vous fais une affirmation et vous me dites simplement vrai ou faux. Voilà.
Très bien.
Sans plus d'explications. Des fois, ça peut être un peu compliqué. Allez, on y va. Aujourd'hui, on peut produire une chanson de qualité pro depuis sa chambre.
Vrai.
Un bon studio, ce n'est pas seulement du matériel, c'est surtout une ambiance.
Vrai.
Beaucoup d'artistes arrivent en studio sans savoir précisément ce qu'ils veulent.
Vrai.
Ouais, vrai.
Le rôle d'un compositeur ou d'un beatmaker, ce n'est pas d'imposer sa patte, mais de révéler celle de l'artiste.
Vrai.
Plutôt vrai, ouais.
Le mixage peut complètement transformer la perception d'un morceau.
Vrai, vrai.
Les jeunes artistes ont parfois plus besoin d'accompagnement humain que de technique.
Vrai, vrai. Totalement.
À Angers, il existe une vraie scène musicale quand même, hein, émergente, mais elle mérite d'être davantage structurée.
Vrai, 100%.
Il y a beaucoup de vrai quand même. Hein. Ouais. publier un titre aujourd'hui est devenu facile. Le faire exister dans la durée, par contre, est beaucoup plus difficile.
Vrai.
Un artiste doit apprendre à penser comme un entrepreneur.
Plutôt vrai. Surtout au début.
Ouais, surtout au début, c'est ça.
La musique actuelle demande autant de compétences techniques que de sensibilité artistique.
Ouais, c'est là que c'est moins facile, mais on va dire plutôt vrai.
La meilleure prise vocale n'est pas toujours la plus parfaite techniquement.
C'est vrai.
Ouais, vrai.
Et enfin, pour créer une dynamique musicale locale, il faut autant des lieux que des personnes capables de faire le lien entre les artistes.
Bien sûr. Bah, vrai.
Ouais. Beaucoup d'affirmations au final. Ouais, sur ce.
Mais
sur
oui,
ce
oui, vrai.
Beaucoup de vrai. Merci beaucoup pour vos réponses.
Les Voix de l'Écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors s'écouter les uns les autres et faire preuve d'écoute, n'est-ce pas un peu une vertu importante en musique comme en communication entre chacun de nous? Pourquoi donc faut-il faire preuve d'assertivité au quotidien? C'est le moment d'écouter la chronique d'Alexis Desjeux.
Mieux vivre ensemble avec assertivité, une chronique d'Alexis Desjeux.
Bonjour chers auditeurs, quel que soit votre genre, obédience et autres croyances toutes personnelles. Aujourd'hui, j'ai une question existentielle à vous poser. Mais pourquoi diable emprunter le chemin de l'assertivité? Franchement, regardez autour de vous, tout va tellement bien dans nos échanges au quotidien. Tenez, il y a 15 jours, une grande chaîne d'infos en continu, un débat sur l'immigration, au bout de quelques minutes, plus personne ne s'écoute, les interruptions pleuvent et les invités se lèvent en lançant « soit c'est un débat, soit je me casse ». Et en fait, ils se cassent, en direct. Magnifique démonstration de dialogue, non? Quelques jours plus tard, sur la chaîne parlementaire, deux femmes politiques s'écharpent sur l'éducation. Les observateurs parlent d'un échange d'une rare violence. Pas d'une rare intelligence, hein? une rare violence. Et ce n'est même plus réservé au plateau. Cet hiver, un ancien ministre et un maire d'une grande ville du Sud en sont presque venus aux mains dans un restaurant, entre l'entrée et le plat. Bon appétit. Bon, alors vous me direz, ça c'est tout le cirque médiatique. Chez les gens comme vous et moi, dans les entreprises, c'est différent. Bah, non, je vais vous prendre le témoignage d'un chef de projet en pleine réunion de direction. Son responsable commercial lui balance « J'ai besoin que tu accélères, là, 6 semaines, c'est non négociable. » Alors le chef de projet répond avec dépit « Ok, je vois ce que je peux faire. » Et puis il rentre chez lui avec une boule au ventre, il sait qu'il ne pourra pas tenir les délais. En fait, aucun des deux ne connaît les contraintes de l'autre. Ils jouent tous les deux en aveugle, on est dans le monde de l'entreprise. Et puis dans la famille, bon, pas beaucoup mieux. Hein. Ma fille m'appelle. Je parle de moi. Hein. Elle vient de se faire percuter par un vélo, par une voiture. Moi, je suis fatigué. J'ai une grosse journée de taf dans les pattes. Je suis inquiet pour elle. Et en fait, je l'engueule parce qu'elle n'est pas encore aux urgences. Elle m'appelle pour me dire qu'elle a eu un accident. Au lieu de la consoler, au lieu de faire preuve d'empathie, bah, je suis humain, quoi.
Mais dites-moi Alexis, à vous entendre, c'est plutôt mal parti, non, pour nos relations humaines. Alors pourquoi s'embêter à emprunter ce chemin de l'assertivité si tout le monde autour de nous fait exactement l'inverse ?
Bah ouais, c'est une bonne question ça Yves, c'est même une excellente question. En fait, si vous vous la posez encore, chers auditeurs, chères auditrices, et quel que soit votre genre, bah regardez l'actualité de notre monde, la réponse elle est là, sous nos yeux, à peu près tous les jours. C'est précisément parce que notre monde part en sucette que je vous invite à emprunter ce chemin. Enfin, l'explorer tout du moins. Si vous avez un truc à faire avec l'autre, ça me semble un chemin de crête entre agressivité ou passivité plutôt chouette à cultiver au quotidien. Alors oui, certains me trouveront sûrement utopiste, voire bisounours, mais j'assume à 2000%. Moi, j'ai vu ce que ça change, hein, l'assertivité, cette capacité à défendre son point de vue tout en respectant l'autre dans sa différence. Être ni hérisson, ni paillasson, comme l'écrit Eric Schuller. Cela permet de maintenir ce pont, peut-être précaire, parce que vous avez peut-être un différent avec l'autre, mais vous avez un truc à faire ensemble. Alors maintenir cette passerelle branlante, c'est maintenir le lien qui permet d'avancer pour finaliser ce projet commun. Même dans le désaccord, on peut rester bienveillant.
Alors d'accord Alexis pour la théorie, mais concrètement, comment on cultive cette assertivité au quotidien ? On va quand même pas tous partir en stage de méditation dans le Larzac, si ?
Allez, rassurez-vous Yves, on n'a pas besoin d'aller jusque dans le Larzac, mais la méditation, ça a du bon pour les relations humaines apaisées. Hein. Donc allez-y, même sans aller dans le Larzac. Ma méthode à moi, c'est le jeu. Quand je parle de jeu, je parle de jeu de société, J-E-U. Fin mai à Paris, devant une centaine de professionnels Elevate 2026, organisé par l'Association française des conférenciers professionnels, que je remercie pour leur confiance sur cette antenne, j'ai fait jouer la salle. Une moitié devient ce commercial sous pression, l'autre ce chef de projet débordé. Et quand chacun découvre enfin les contraintes de l'autre, agit sur ce qu'il maîtrise, pose son intention, écoute son état d'esprit intérieur et ses émotions, ben là, il se passe quelque chose. Chacun explore la rive de l'autre, sans s'oublier soi-même, et puis ensemble, ils trouvent un chemin de crête. L'un lâche un délai, l'autre livre une version bêta du projet, imparfaite mais solide. Parce qu'il vaut mieux un pont de singe imparfait que pas de pont du tout quand on a un truc à faire ensemble. Alors je vous invite à un jeu tout simple, tout à l'heure au déjeuner en famille ou à la machine à café avec vos collègues. Le jeu des 3 secondes. 3 secondes avant de répondre à quelqu'un qui vous agace. Imaginez, durant ces 3 secondes, peut-être a-t-il vécu quelque chose de difficile. 3 secondes de silence. C'est le temps de l'assertivité. Pour écouter l'autre avec empathie. Allez, prenez soin de vous et de vos proches, faites les choses avec plaisir, envie et audace si ça vous branche. Belle journée et à nos invités, avez-vous un exemple ou un moment où vous êtes sorti de vos gonds avec un artiste ou entre vous deux ?
Alors, Émeric, Julien.
Les 3 secondes, c'est pas parce qu'on a agacé. Hein. Non, je pense qu'on a la chance que ça ne nous soit pas arrivé au studio, je pense.
Ouais, j'ai pas de souvenir non plus comme ça. Je pense qu'il y a quand même une raison qui s'explique par l'expérience aussi, à force de, on rencontre énormément de monde. Et je pense que, comment dire, on sait avec qui ça va bien se passer. On peut se douter de, avec des personnes avec qui ça va moins bien passer. Ce qui fait que, on réduit ce risque. Tout simplement.
Eh ben, bravo pour cette assertivité au quotidien, quoi.
Merci beaucoup, Alexis, pour votre chronique.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Ah là là, je vois que l'heure tourne. J'ai encore plein de questions, mais on va faire rapide. Vous accompagnez actuellement une jeune artiste, donc qui s'appelle Emma. Comment vous l'avez sélectionnée et quel est ce programme justement que vous avez créé pour l'accompagner ?
Alors pour le contexte, on a créé un dispositif d'accompagnement qui s'appelle Confluence. En gros, on accompagne un artiste sur une année entière et le but c'est de le faire passer de amateur à professionnel, essayer de professionnaliser son projet musical. Et donc en fait, on a fait un appel à candidature principalement par les réseaux sociaux et la presse aussi. Et voilà, on a eu 67 candidatures. On a sélectionné Candide pour le nom d'artiste parmi les 67 personnes.
Ouais, c'est énorme.
Ouais, c'est énorme. Franchement, on s'attendait à rien puisque c'était la première fois qu'on faisait ce dispositif et cet appel à candidature. Et on se disait, si on a 20-25 candidatures, c'est déjà beaucoup. Bon, bah, trois fois plus finalement. Donc, ouais, on était surpris et contents. On a mis beaucoup plus de temps que prévu à choisir, du coup, forcément. Mais on a rencontré une sélection de finalistes, entre guillemets. Et on a choisi Candide. Et donc, depuis janvier, on est avec elle sur tous les aspects dont on a pu parler aujourd'hui. Composition, écriture, arrangement, enregistrement, mixage, mastering, et on sort un premier morceau du coup le 19 juin, suivi tout près par une première scène à la fête de la musique. Donc ça sera place de la préfecture à 18h30 pour ceux qui sont intéressés, et on joue avec elle du coup guitare pour Emeric et moi synthé.
Super, c'est génial. Allez tous sur la scène pour la fête de la musique, ou en tout cas allez voir cette scène place de la préfecture. Est-ce que vous avez des envies de création justement d'un petit festival pour fédérer un peu tous ces liens sur Angers, parce que bon, on connaît le Shabada, le Jokers, etc. et d'autres lieux. Est-ce que voilà, vous avez déjà des idées en tête par rapport à ça?
Un festival à proprement parler, c'est peut-être pas exactement ça. Faut qu'on trouve la forme, mais en fait, on y a déjà réfléchi et on a déjà fait une première étape de ça. Pour la fête de la musique, l'an dernier, on a invité sur scène 4 artistes avec qui on travaille. Et donc, c'est à peu près ça, ouais.
Eh ben, super. Merci beaucoup, Julien Marais et Emeric Poupard, d'être venus nous parler de votre parcours, de votre passion pour la musique.
Merci à vous.
De cette belle aventure qu'est The Main Studio. Je rappelle donc The Main Studio, ouvert en octobre 2024, avec une envie forte, créer un lieu de composition, d'enregistrement, de mixage, de mastering, mais aussi d'accompagnement pour les artistes qui veulent donner forme tout simplement à leur idée et aller plus loin de leur projet musical, un projet pour fédérer. Si vous êtes musicien, chanteur, rappeur, compositeur, porteur d'un projet musical ou simplement curieux de découvrir leur univers, vous pouvez retrouver Julien et Emeric du côté de The Main Studio au 28 rue Baudrière à Angers, ainsi que sur leurs réseaux sociaux et sur internet. N'oubliez pas le projet Confluence également. Merci à Alexis et Anne pour vos chroniques. Retrouvez dès maintenant Fabien Bertrand pour l'émission Les Métiers de l'Ombre. Il reçoit Nicolas Boda qui est designer produit industriel. On se retrouve le mercredi 24 juin 2026 de midi 10 à 13h pour la dernière de la saison. Nous allons parler de voyage dans le désert. Merci d'écouter Radio G et d'ici là, prenez soin de vous.